Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de maternité, d'accompagnement des autres et de différences générationnelles liées à la grossesse et à l'accouchement. On y va pour l'histoire de ma femme d'aujourd'hui.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Lilia Almrari, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lilia ?
Bonjour Yasmine, ça va, merci, très bien, et toi ?
Un plaisir de t'avoir avec moi. Alors toi, tu es aujourd'hui consultante périnatale, une jolie jeune femme au service des futures mamans, c'est bien ça ?
Tout à fait, c'est ça.
Alors Lilia, justement, de plus en plus de jeunes marocaines qui s'intéressent à ça, mais dans, dans l'esprit des gens, ce n'est qu'une femme d'un certain âge avec une certaine expérience qui s'occupe de la future maman. Ce n'est pas le cas en fait.
Non, non, ce n'est pas le cas, mais je comprends les gens qui ont cette idée-là en tête. C'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, en fait, comment m'est venue cette idée en fait d'accompagner les femmes, c'était à travers une expérience personnelle que j'ai eue en m'occupant de petits enfants pendant mes années étudiantes. Et très vite, je me suis intéressée à la petite enfance et à la maternité, ce qui m'a amenée à travailler dans ce domaine. Et très vite, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'avoir un certain âge, qu'on n'a pas besoin d'avoir un certain background pour pouvoir occuper ce rôle.
Alors, ça ne, n'étonne pas un peu ou ça ne surprend pas les jeunes mamans quand elles voient la première fois ?
Pour certaines, si, pour d'autres, non. Et après, très vite, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gynécologues hommes, il y a beaucoup de sages-femmes aussi qui n'ont pas forcément d'enfants. Et donc, très vite, on se rend compte à quel point les deux ne sont pas forcément liés.
C'est
après,
ça.
Bien évidemment, il faut avoir une certaine sensibilité à ça. Mais voilà. C'est pas systématiquement lié.
Okay. Alors, justement, ce travail avec les mamans, les bébés. Alors, justement, on va essayer de comprendre ça, parce que ce qu'on connaît dans notre culture, c'est la sage-femme, Qabla.
Oui.
La consultante en périnatalité, c'est quoi exactement ?
Alors, une consultante en périnatalité, c'est une personne qui va intervenir auprès des nouveaux parents, des futurs parents, pour les accompagner dans leur choix, pour les accompagner donc dans leur grossesse, leur naissance et aussi leur postpartum. Ça peut très bien toucher de la préparation à l'accouchement, comme ça peut toucher l'allaitement. Donc un projet d'allaitement, comme ça peut toucher, donc dans mon cas à moi, d'intervenir en fait sur des problématiques liées au sommeil de l'enfant, à l'allaitement ou encore à certaines émotions que l'on peut débloquer grâce à la réflexologie bébé émotionnelle que je pratique.
Ah, ça c'est bien, ça doit soulager quand même.
Beaucoup.
Alors, est-ce que tu assistes à l'accouchement ?
Oui, quand on le souhaite, j'assiste à l'accouchement. Quand les mamans le souhaitent, j'assiste à l'accouchement. C'est un moment qui est riche en émotions, très très riche en émotions. On sous-estime par moments l'impact qu'un accouchement peut avoir, même sur nous, consultantes périnatales.
Ouais. Alors, donc, j'ai une autre question.
Mm-hmm.
Il faut intervenir, tu dois intervenir dans ce processus à partir de combien de mois de grossesse ?
Alors, j'interviens généralement vers les 6 mois de grossesse. Généralement, c'est le moment où les mamans prennent contact avec moi et où on va dans un premier temps discuter sur leur volonté, sur ce qu'elles cherchent, ce qu'elles ont envie de vivre. Le but, bien sûr, c'est de pouvoir permettre à une maman de vivre une expérience positive le plus possible, dans la mesure du possible, tant que sa santé et la santé de son bébé lui permet. Et bien sûr, aussi avec accord du médecin. Donc, on est complémentaire, si tu veux, à ce que le personnel médical propose.
Est-ce que, de par ton expérience de femme d'aujourd'hui, justement, dans les maternités, avec les mamans, les futurs parents, est-ce que les papas, les jeunes pères d'aujourd'hui, les jeunes hommes d'aujourd'hui sont impliqués ? Est-ce qu'ils sont présents ?
De plus en plus. C'est toujours aussi agréable et surprenant à voir dans le contexte marocain que l'on connaît. Mais de plus en plus de parents, de plus en plus de papas demandent à être présents, à pouvoir participer, à pouvoir apprendre comment soulager leurs femmes, comment les encourager, les accompagner le plus possible. On a vraiment de plus en plus de papas qui sont curieux. Il faut aller sur du pratico-pratique avec eux, il faut aller droit au but, mais de plus en plus de papas demandent à en savoir de plus en plus, oui.
Et dans tout ça, avec tout ce que tu vois, tout ce que ces femmes vivent et que tu accompagnes, est-ce que ça te donne envie d'avoir un enfant?
Oui,
honnêtement.
<Bien sûr>. Oui, c'est une bonne question. Oui, mais pas tout de suite. C'est vrai que j'ai beaucoup d'empathie et d'admiration pour les femmes qui enfantent aujourd'hui en 2023. Ça demande une force et un courage incroyable. Aussi, ça demande beaucoup de courage d'imposer ses choix aussi, quand bien sûr la santé ne nous le permet. Mais effectivement, il faut avoir un certain temps, il faut avoir une certaine disponibilité. Et vu le contexte aussi socio-professionnel d'aujourd'hui, par moment, c'est pas facile d'allier les deux. On n'en est pas encore là, mais mais c'est vrai que ça demande un certain temps, une certaine organisation. Donc, ça viendra plus tard.
Alors justement, en fait, tu es notre petite souris de ces jeunes couples d'aujourd'hui, tu nous ramènes. c'est quoi la plus grande galère des parents d'aujourd'hui, des jeunes couples d'aujourd'hui, des jeunes femmes d'aujourd'hui?
Alors, la plus grande galère, j'hésite à dire la fatigue, le manque de sommeil et aussi le fait de vouloir faire respecter ses choix de naissance auprès de tout le staff médical qui n'a pas aussi l'habitude d'avoir des parents qui ont des préférences pour les accouchements. Bon, aujourd'hui, ça se démocratise de plus en plus et c'est génial. De plus en plus de sages-femmes, de gynécos sont sensibles à ce type de pratique, ce type de préférence et
mais comme quoi, par exemple, quand tu parles de préférence, c'est-à-dire on arrive, on accouche et c'est le médecin qui décide. Enfin, c'est comme ça que ça se passe avec nous. On arrive comme ça. Pourquoi c'est différent dans ta génération?
Alors, la génération d'aujourd'hui, elle souhaite se rapprocher le plus du naturel, vraiment essayer de mettre en place des pratiques naturelles, de se servir en fait de méthodes de gestion de la douleur un peu plus
pas de péridurale, pas de...
C'est ça, mais bien évidemment, toujours avoir la péridurale comme option, mais voilà, avoir d'autres options, pouvoir marcher, pouvoir se déplacer, pouvoir être libre de ses mouvements, pouvoir avoir quelqu'un en plus dans la salle de naissance. C'est des petites choses, pouvoir aussi, il y a dans des cliniques, on a des pères qui ont le droit d'assister à la naissance en cas de césarienne, d'autres non. C'est compréhensible, bien sûr, ça dépend du médecin. Mais voilà, c'est des petites préférences, en fait. On ne se rend pas compte de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça peut réellement changer l'expérience de la femme. Le fait de se sentir soutenue et accompagnée, ça peut vraiment changer l'expérience de la femme du tout au tout.
Mais justement, est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire qu'il y a un conflit générationnel entre le staff médical d'avant,
oui,
et les demandes d'aujourd'hui, entre l'ancienne école et les jeunes d'aujourd'hui?
Alors, oui, on peut dire ça dans le sens où la génération d'avant va avoir comme volonté, en fait, de soulager la femme vite. Donc c'est bien évidemment que bénéfique pour la femme, mais l'accouchement n'y a pas de temps imparti pour accoucher, en fait. On n'a pas un timing, on n'a pas un délai. Ça prend le temps que ça prend. Bien sûr, tant que la santé de la maman et la santé du bébé nous le permet. Mais c'est vrai que oui, il y a un petit conflit. Enfin, il y a des petites différences. Mais aujourd'hui, encore une fois, de plus en plus de sages-femmes et de plus en plus de gynécologues médicaux sont à l'écoute de ce type de volonté en fait de la part des femmes et du coup cherchent à accompagner les mamans comme elles le souhaiteraient, comme les mamans le souhaiteraient. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, on a cette idée-là où il faut faire vite, mais ça commence à se déconstruire petit à petit.
Alors pour toi, Lilia, c'est quoi l'accouchement idéal? Comment tu rêves ton accouchement? Dis-moi d'abord comment je rêve ma grossesse avant de rêver mon...
Alors,
on va y aller petit à petit. Comment tu rêves ta grossesse?
Je t'avoue que je n'y ai jamais réellement pensé. Je pense que j'ai plus pensé à l'accouchement puisque je suis amenée à avoir plusieurs accouchements. La grossesse, on va dire le plus simplement possible en réalité, sans pour autant que ce soit un obstacle dans ma vie de tous les jours. Voilà, une grossesse plutôt simple et épanouie, on va dire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tout en restant active dans ma vie de tous les jours. Pour l'accouchement, moi, je suis une grande partisante en fait, du travail à la maison. Dans un premier temps, et puis me rendre à la maternité quand le moment est le bon.
Alors, le travail à la maison est possible comme toi, quand on accompagne les autres, c'est-à-dire qu'on connaît certains réflexes, certains éléments qui peuvent faire penser à une souffrance fœtale, mais quand c'est travail à la maison, c'est sous la surveillance d'un professionnel ou seul?
Alors, pour répondre à ta question, en cours de préparation à la naissance, on voit qu'il n'est pas réellement utile d'aller à la maternité dès la perte du bouchon muqueux ou la rupture de la poche des os.
Aller en courant avec sa poche des os rompue, ça c'est un mythe.
C'est un mythe. C'est ce que l'on voit à la télé et malheureusement ça nous a un peu conditionnés parce que la plupart des gens pensent que c'est ce qu'il faut faire, mais en fait c'est beaucoup mieux de rester à la maison, de faire la plus grosse partie du travail à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est notre cocon, c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité et c'est ce qui va nous permettre en fait de sécréter les bonnes hormones pour pouvoir en fait avoir un accouchement qui se déroule au mieux. Donc en réalité, c'est mieux de rester à la maison le plus possible, encore une fois, quand la santé de la maman et que la santé du bébé le permet. Donc généralement, à la dernière échographie, on voit que voilà, ça se passe plutôt bien. Le gynécologue nous donnera aussi les directives à ce moment-là. Et puis voilà, généralement, quand on arrive à la maternité très tôt, on va juste rester allongé. Le but, c'est de ne pas rester allongé, c'est de pouvoir être mobile, de pouvoir bouger, de pouvoir se servir de la gravité, de pouvoir être libre de nos mouvements. Ça va nous aider à faire en sorte que le travail aille plus vite. Une fois qu'on se retrouve dans un environnement qui nous est inconnu, généralement, le corps va un peu se mettre en réaction, enfin, ça va un peu réagir en mode je me protège. Donc, ça peut par moment stopper les contractions pendant un certain temps et reprendre par la suite. Donc, voilà pourquoi on recommande de rester à la maison les premières heures.
Est-ce qu'aujourd'hui, les médecins ne trouvent pas que les futurs parents en savent un peu trop et pas toujours ce qu'il faut?
J'imagine que oui, parce que ce n'était pas des choses, enfin c'est des choses dont on n'avait pas du tout l'habitude avant. C'est des choses qui se démocratisent de plus en plus, en tout cas ici, mais qui sont très présentes dans d'autres pays. Pour certains médecins, je pense que c'est toujours bien d'avoir des parents informés. Ça a un impact positif sur le reste de l'accouchement au final. Je préfère, moi, penser ça.
Oui. Alors, justement, Lilia, ça fait combien de temps que tu pratiques au Maroc?
Ça fait environ 3 ans.
Alors, ça a été simple de faire ta place, de te faire accepter, de...
Non, enfin, comme dans tout métier, il y a toujours des hauts et des bas. Hein. C'est pas propre à la périnatalité. Bien évidemment, il y a des milieux où c'est plus facile que d'autres et d'autres où c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, les gens m'ont toujours accueilli, que ce soit le personnel médical ou que ce soit les parents. Les gens m'ont toujours accueilli les bras ouverts, m'ont toujours fait confiance. Je n'ai jamais, alhamdoulilah, eu de soucis par rapport à ça. Mais effectivement, il faut un temps d'adaptation. Il faut s'adapter aussi à la culture marocaine parce que les deux aussi vont de pair. Hein. On a, comme dans tout pays d'ailleurs, hein, le monde de la maternité est souvent aussi associé à la culture. Donc il a fallu aussi s'habituer aux différentes pratiques, faire de la place aussi aux différentes pratiques dans les cours de préparation à l'accouchement pour ne pas non plus les supprimer totalement et être dans le pratico-pratique, quoi.
Alors, j'ai encore deux questions par rapport à ça. S'adapter à la culture, il y a aussi pas mal d'idées de superstitions, de croyances autour de la maternité. Est-ce que tu fais avec aussi ? Est-ce qu'il faut faire avec ? Quel que soit le niveau d'éducation, je pense, des futurs parents et surtout de la maman, mais c'est la grossesse, l'accouchement, c'est un moment de grande vulnérabilité humaine. Et finalement, les masques tombent, comme on dit.
Tout à fait, exactement. C'est bien résumé, c'est vraiment bien résumé, Yasmine. Oui, bien sûr, il faut faire avec. Après, comme tu dis, ça dépend de la maman. Il faut s'adapter. Mais généralement, au moment T, ça prend pas réellement c'est pas ce qui prend le plus de place. Mais très vite après, juste à la naissance, bien évidemment, ça prend de la place. Après, il faut essayer de faire passer le message. Le plus doucement possible pour ne pas perturber la maman parce qu'on va aussi perturber ses croyances. On n'est pas là pour ça, on est là pour l'accompagner. Donc on essaye, mais en respectant les choix de la maman. Ça peut notamment avoir lieu, par exemple, les premières heures après l'accouchement. Généralement, on va avoir des mamans qui ne vont pas spécialement vouloir garder l'enfant dans les bras parce qu'il ne faut pas l'habituer aux bras. Ça, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Et ça peut par moment avoir un impact sur le démarrage de l'allaitement puisque l'enfant, pendant 9 mois, il était porté par sa mère et tout d'un coup, il se retrouve dans un lit. Donc, des fois, il faut essayer de faire passer le message de la manière la plus douce possible. Ne pas non plus les culpabiliser parce que ce n'est pas le but. On ne va pas venir culpabiliser une maman ou venir déconstruire toutes ses croyances. C'est vraiment l'accompagner le plus doucement possible et de la manière la plus bienveillante possible. Voilà.
Alors, justement, dans tout ce processus, ton processus professionnel à toi, celui d'accompagner les futurs parents, les jeunes parents, comment tu gères les avis, les conseils des autres, surtout de la mère, de la belle-mère, voilà. Est-ce qu'on te prend au sérieux, justement ? Est-ce que tu arrives à faire, à vraiment mettre ton empreinte de femme d'aujourd'hui ?
Alors oui, généralement, les mamans, quand elles me contactent, elles ont déjà eu un petit aperçu, des avis qui arrivent de toutes parts. Très vite, en fait, on tombe d'accord sur le fait qu'on reçoit beaucoup d'avis non demandés. Donc après, le but, en fait, moi, mon objectif, c'est plus de leur donner confiance dans le sens où, elles n'ont pas besoin de différents avis. Généralement, elles-mêmes, par elles-mêmes plutôt, elles se ferment naturellement.
Mais est-ce que, par exemple, il t'arrive parfois d'être en séance et il y a la présence, par exemple, surtout avec l'accouchement, quand tu vas voir cette jeune maman qui vient d'accoucher à l'hôpital ou à la clinique, et qu'il y a la belle-mère, il y a la mère, il y a la grande sœur, et voilà, qui t'entendent parler et ça ne leur convient pas ce que tu dis parce que dans leur pratique à elles, c'est différent.
Ah si, ça m'est déjà arrivé, Après, je suis obligée de garder bien évidemment ma posture de professionnelle et de respecter l'histoire et l'expérience des aînés. On ne peut pas venir ignorer ça non plus. Mais voilà, le but, c'est de faire passer le message, de dire c'est leur histoire, on la respecte. Maintenant, c'est ton histoire à toi en tant que maman et tu as le droit, en fait, de la construire comme tu veux. Donc, rien que le fait, en fait, de donner ce pouvoir-là et cette confiance-là aux mamans, déjà, ça leur donne... Ça leur donne une marge de manœuvre un peu plus grande et ça leur permet de ne pas se sentir infantilisés, entre guillemets, dans leur début de maternité. Mais effectivement, oui, c'est des choses qui peuvent arriver.
C'est des choses qui peuvent arriver, absolument, donc, j'imagine. J'imagine que
on est rodés.
Voilà, il faut gérer, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Mais ça fait partie du processus. Hein. Dans un autre pays, ça aurait été pour d'autres thèmes. Et voilà, c'est ça fait partie du processus.
Alors Liliane Mrari, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.